apéro très spécial. Très très spécial. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet apéro unique, puisque comme vous pouvez le voir, Alex et Simon ont un peu changé. Je suis avec, on va parler français tout de suite, les deux agents français les plus puissants de la NBA. Deux noms que vous connaissez évidemment si vous connaissez le basket et vous suivez la NBA depuis longtemps, ou bien deux personnes que vous allez retrouver bientôt au cinéma. Très très hâte de faire cet apéro avec vous. Je suis avec Buna Ndiaye et Jérémy Medjana. Comment ça va messieurs?
Super.
Ça va très bien.
Ça va?
Grand jour aujourd'hui.
Pourquoi grand jour?
Pourquoi grand jour? On se disait avec Jérémy qu'il fallait monter les montagnes, les redescendre, les remonter, aller tout en haut, avant d'être invité sur Trash Talk.
Oh là là, tout de suite. Bah oui, mais en même temps, c'est vrai que vous êtes aussi très très occupés, nous aussi. Puis on s'est demandé, nous, est-ce qu'il faut qu'on fasse une grande émission ensemble? Là, il y a une grosse actualité qui arrive, on va en parler. Mais ouais, ça va là, la semaine, là, ça va être un peu la folie avec la trade deadline notamment, non?
En fait, pour rebondir, je sais pas si elle m'aime, mais si je lui demande pas, je saurais jamais qu'elle m'aime.
D'accord, je vois. Ok, je vois tout de suite, ça balance.
C'est
ça,
peut-être
balance
la femme de ma vie, mais peut-être, je sais pas.
En tout cas, on est très très content, évidemment, d'accueillir Jérémy et Buna ici sur le canapé. Comme vous le savez, c'est une semaine remplie d'actualité. On est sur de la trade deadline en NBA. Donc, déjà, un grand merci à vous deux d'être là parce que l'agenda doit être pas mal rempli. Je me suis même demandé si on pouvait être interrompu en pleine émission par un appel dans tous les sens ou quoi que ce soit. Et puis, c'est aussi une semaine d'actualité et un mois d'actualité parce que on a un film qui va sortir. Et pas n'importe quel film, Le Rêve Américain. Vous avez peut-être entendu évidemment parler de ça, on en a parlé sur Trash Talk. Et je vais justement tout de suite vous le montrer. Ça sort le 18 février, vous foncez dans toutes les salles. Personne n'y croyait, alors ils l'ont fait. Le Rêve Américain, ça sort donc dans toutes vos salles. Vous allez dans le premier commentaire de cette vidéo évidemment. Et vous allez voir, il y a un lien qui vous permet justement d'accéder aux salles les plus proches de chez vous, que ce soit notamment Gaumont ou dans d'autres petites salles. J'ai envie de vous poser une première question par rapport à ça, parce qu'on va parler de plein de choses, évidemment, du film, du métier d'agent, etc. C'était un rêve de gosse à la base de faire un film, ou c'est une opportunité qui se présente comme ça et vous la saisissez?
Je pense qu'on n'a jamais eu la prétention d'imaginer qu'il y aurait un film sur nous, mais bon, c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Donc, et à partir du moment où on a pris le temps de lire ce scénario qu'on nous avait, pour lequel on nous avait contacté préalablement, on a fini par le lire. Et effectivement, quand on l'a lu avec Buna, ça a été une évidence. En fait, une évidence que on voyait notre vie, on voyait ce film.
Et vous voyez tout défiler. Vous vous êtes dit, ça allait être un projet sur lequel vous étiez OK.
En trash talk, les gens vont dire oui, ils ont sponsorisé le film faisait...
Non, première minute d'émission.
non mais en réalité, d'accord, on c'est pas notre idée de dire on va faire un film sur nous, on va faire du marketing, etc.
Non, c'est pas la prétention.
Vraiment,
ouais.
C'est vraiment des gens qui sont venus vers nous en disant votre histoire est intéressante, on aimerait vous proposer un scénario. Et c'est avéré qu'après avoir lu plusieurs différents scénarios, celui-là nous parlait vraiment, c'était vraiment notre histoire.
Bah, c'est vachement bien et pour le coup, moi je vais pouvoir en parler pendant quelques minutes. Je vous montre quelques images parce que vous l'avez peut-être vu. On a quand même deux sacrés acteurs et je vais vous poser après la question de savoir justement comment ça s'est passé. Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. Spoiler, si je peux me permettre, je pense que Quenard joue Jérémy et Zadi joue Buna là-dessus. On va être très très clair, je pense. et justement, la première question que j'allais vous poser, c'est que nous on les connaît évidemment sur la scène du cinéma, mais comment s'est passée la rencontre? C'est des noms, ils vous connaissaient, vous les connaissiez, vous vous êtes dit ah bah tiens eux ce serait génial. Comment est-ce qu'on en vient à avoir des personnes qui jouent en fait vos vies en fait?
Bah, ils nous connaissaient nous avant qu'on puisse les connaître parce qu'en fait je pense que Buna c'est la même situation. On regarde très peu de films mais je pense que Buna quand il regarde des films c'est plutôt aux États-Unis donc c'est plutôt des films américains.
Des films de basket.
des films de basket en plus, ouais. Mais surtout des matchs. Mais effectivement, non, quand on a été contacté, il y avait déjà un engagement de au moins d'un des deux acteurs, voire les deux, je ne sais plus exactement. Mais moi je les connaissais pas du tout, j'ai été honnête avec eux, on les s'est rencontrés, il y avait un super feeling aussi et on a senti qu'ils étaient en plus très proches. Donc on s'est projeté aussi en se disant on pense que effectivement ils forment un beau duo. Et puis on s'est mis à regarder aussi, bien évidemment, on s'est intéressé à leur parcours, parce qu'ils ont aussi un parcours exceptionnel, hein. Ils sont partis de très loin, l'un de Caen, l'autre de Grenoble. Mm-hmm. sans être des fils d'eux ou d'avoir été pistonnés, ils se sont faits tout seuls aussi. Donc, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes dans nos parcours respectifs, et même en tant que binôme. Donc du coup, ça, tout s'est fait naturellement et tout s'est bien fait même d'ailleurs par rapport à ça. Donc voilà, peut-être vous voulez rajouter quelque chose.
Ouais, écoute, la rencontre a été, il y a eu un vrai clic en fait.
Ça a fit tout de suite entre vous.
Ouais, très rapidement. C'est vrai qu'il a fallu qu'on aille regarder 2-3 films pour savoir ce qu'ils font, parce que bon, on regarde que du basket en vrai dire.
Oui, donc, en fait, vous êtes connecté.
Moi, j'ai même eu peur hein, quand je voyais les films de Raphaël. J'ai dit, mais il est un peu psychopathe. Il est un peu...
Mais alors, c'est marrant parce que il a une explosion depuis quelques années, évidemment, sur la scène française. Il y a des films vraiment sur lesquels il cartonne. Il a eu des récompenses, mais c'est vrai que c'est un personnage assez atypique, en tout cas on a l'impression de l'extérieur, et vous avez eu ce sentiment là aussi quand vous avez eu la première approche avec lui?
Ouais, un peu, enfin ils ont fait, chacun a eu des films qui ressemblaient pas du tout à ça.
Ouais.
Jean-Pascal, c'est un rigolo, il fait beaucoup de films rigolos, et puis c'est vrai que là c'est un challenge quoi, mais ils étaient tellement à fond. Ils nous ont tellement bombardés, on est parti voir le match NBA, durant le match on n'a pas pu voir le match, ils arrêtaient pas de nous poser des questions de partout.
Sur la rencontre que vous avez vue ensemble?
Ouais.
Oui, okay. Sur notre métier, sur les...
Bah pour essayer de s'imprégner un peu de...
Ah
oui,
carrément. De toute façon, Raphaël est même venu à la draft avec nous. Jean-Pascal n'a pas pu, mais il était venu à la draft il y a 2 ans.
La draft 2024?
Ouais, c'est la draft...
2024,
ouais. Ok. Ouais, 2024. Et donc forcément, il a passé 48 heures immergé avec nous au cœur de la draft.
Incroyable.
Donc c'était... voilà, il s'est beaucoup nourri de ça. Et on a eu aussi pas mal de déjeuners, dîners et beaucoup d'échanges. Et puis on s'est rapprochés de plus en plus. Donc forcément, ils ont... C'est pour ça que je pense que ça se ressent. Ils ont réussi à bien comprendre le métier, nos personnalités, notre façon aussi de s'exprimer. Le côté Bouna qui est plus zen, Jérémy qui est un peu plus speed,
qui est le feu.
Oui, Fire and Ice,
la glace,
Fire and Ice.
Voilà. Et ce qui est marrant en plus, c'est que quand il nous raconte en fait comment ça s'est passé, en gros Raphaël est dans la même salle de sport que le réalisateur Anthony Marciano.
Oui.
Et en fait il dit en rigolant, Anthony était en train de se débattre avec une haltère de 15 kilos et puis on a commencé à discuter et il lui a dit, qu'est-ce que t'as en ce moment comme scénario? Puis il lui a parlé d'un thriller et en fait il a pas plus accroché que ça. Il lui a dit, mais t'as quoi d'autre? Et après il lui a dit, j'ai un film sur une histoire d'amitié dans l'arène du basket, mais c'est pas pour toi parce qu'il me faut un acteur qui soit pas très grand. Bon, voilà. Et en fait il a dit non mais montre-moi quand même. Et en fait il a lu le scénario, il l'a appelé direct, il a dit non, je veux faire ce rôle. Voilà. Et Jean-Pascal avait le scénario dans sa boîte.
Okay.
Il l'avait reçu bien avant Raphaël, sauf que il l'avait pas pris le temps de le lire parce qu'il avait plein de projets en cours. Donc comme ils sont potes, Raphaël, Anthony en parle à...
T'as reçu le script que
voilà.
je...
Okay, Anthony en parle à Raphaël et il dit, attends, j'ai envoyé le script à Jean-Pascal, mais il réagit pas, est-ce que tu peux voir? Donc il l'appelle, il dit, Raphaël l'appelle, un petit coup de pression, il dit, écoute, va dans ta boîte à lettres, ouvre-moi ce mail, lis le scénario et tu vas voir, tu vas me rappeler tout à l'heure. Et il l'a appelé dans l'après-midi, il dit, let's go, on y va.
Bah nous, c'est passé la même chose. Jérémy a reçu le scénario, parlait déjà avec Anthony Marciano pendant 2 ans et moi je disais, c'est bon, on a déjà plein de choses en cours, etc. Jusqu'au jour, il me dit, bon, mec.
On est un peu occupé en ce moment, ouais, tu m'étonnes.
Essayons de le lire.
Ouais.
Puis on prend une décision, quoi. Puis quand on l'a lu tous les deux. Waouh,
vous êtes dit waouh. Et alors justement, j'allais vous poser la question là-dessus parce que, pour rappel, donc 18 février, foncez. Et je vous dis foncez pour une raison qui est simple, c'est que avec Alex qui est juste derrière là, vous le voyez pas, mais on est allé voir
cuisine, il nous prépare un petit
déjeuner. Il est en train de nous faire un bœuf bourguignon là, c'est extraordinaire. On a vu le film en avant-première. Et moi, ce que je trouve très cool, je me permets de donner, sans spoiler, mais de donner un peu mon avis aussi pour vous poser une question, c'est que lorsqu'il y a des films de basket qui sortent, souvent c'est difficile, je trouve, de placer le curseur sur ça parle à tout le monde, donc tout le monde peut s'identifier à l'histoire, et en même temps les basketteurs et basketteuses se sentent pas lésés et s'y retrouvent pas. Et je trouve que le curseur a été vachement bien placé là, parce que, encore une fois sans faire de spoiler, au bout de 20 minutes il y a une scène où vous jouez sur un terrain de basket et tout, ça commence à sortir la plaquette et à parler de elevator screen, cut back door et tout, et j'ai regardé Alex, je fais ok, donc on va voir pour l'histoire, on a une petite idée, mais vous aviez un mot là-dessus, c'est-à-dire que vous avez laissé carte blanche à Marciano et aux deux acteurs, ou est-ce qu'il y a 2-3 fois où vous êtes intervenu, vous avez dit ça là-dessus, un peu plus ceci ou un peu moins cela?
Alors, non, justement, alors moi au départ, par rapport au scénario, je voulais effectivement intervenir. Mm-hmm. Bouna m'a dit, laisse l'artiste faire son œuvre.
Ice et Fire.
Voilà. C'est ça, pardon. Bouna a dit laisse l'artiste faire son œuvre. Et par contre, on les a mis en relation avec un coach qui s'appelle Manu de Carvalho. Voilà, qui est directeur sportif du club de Courbevoie d'ailleurs. Et, et c'est un entraîneur qui entraîne beaucoup nos jeunes individuellement, fait partie de nos coachs avec lesquels on collabore. Et en fait, Anthony a participé. Au départ, c'est lui qui a entraîné Raphaël et Anthony. Et Jean-Pascal.
Et Jean-Pascal, ok.
Voilà. Et au bout d'un moment, donc du coup, Anthony a sympathisé aussi avec lui puisqu'il assistait aux entraînements. Et en fait, il a apporté effectivement une touche un peu plus technique. Et donc, je pense qu'il est intervenu. C'est lui qui est intervenu sur cette partie-là pour qu'il y ait un vocabulaire basket.
Un vocabulaire basket, ouais. Ça, là-dessus, tu l'as remarqué toi aussi, Bouna, qu'ils étaient un peu pointilleux quand même là-dessus par respect pour ce que vous faites et le sport que vous aimez.
Oui, globalement, c'est vrai que bon, il y a un thème basket bien sûr, hein, parce que notre histoire elle est, on va dire, à travers le basket. Ouais. Mais ce film, c'est pas un film sur le basket.
Non, c'est vrai, c'est assez vrai. C'est vraiment un film d'amitié.
Ouais. Mais dans l'arène du basket.
Cela dit, c'est vrai qu'en le voyant avec du recul, ça simplifie un peu. Tout le process en fait du joueur qui rêve à la NBA quoi, donc ça simplifie d'une manière très bien d'ailleurs. Anthony, il a fait un travail de fou quoi.
Voilà, non, franchement c'est très fort.
Bah, Anthony est fan de basket d'ailleurs, hein.
Oui, à la base c'est ça.
A grandi avec des posters comme nous, Jordan, Magic Johnson dans sa chambre parce qu'il est de la même génération quasiment de nous.
J'ai même pas besoin de montrer le script à Jérémy, il me coupe les questions avant même que je les pose, c'est formidable. On accueille des gens dans le studio, vous en faites pas, c'est normal, on est en plein tournage. J'allais vous poser justement la question suivante, c'est que moi là où ça me touche particulièrement de faire l'émission aussi avec vous, pour être totalement transparent, et puis les gens de la commu savent que j'aime bien l'être, c'est que quand j'étais petit, comme beaucoup de gens, quand on est passionné de basket, on essaie de trouver un moyen de se rapprocher un peu de la NBA d'une manière ou d'une autre. Puis après, t'as une barrière, si t'es pas athlète, ça peut être un peu compliqué. Je me suis dit, bon, on va éviter cette piste-là, mais t'essaies de trouver un moyen. Moi, je suis très fier de pouvoir dire avec Alex et toute l'équipe qu'on a réussi à trouver un moyen avec un média de faire ça. Vous avez réussi à monter la montagne, pour reprendre ton expression, et continuer, je sais même pas jusqu'à quelle hauteur elle est cette montagne, mais à la toute base... Le basket, il arrive comment dans vos deux vies? Avant même que vous vous rencontriez, le souvenir le plus lointain que vous avez du basket, Bouna, le tien, le premier, c'est quoi?
On a combien de temps là? On a
4 bah, c'est, toi heures, dit, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis.
Non, parce que l'histoire, c'est un film.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bois. Alors, à la limite, le tout premier souvenir ou la première image que tu as, c'est un film, un poster, c'est quoi?
Écoute, d'abord, paradoxalement, donc j'ai atterri à Grigny-la-Grande-Borne en 81.
Ton Sénégal natal.
Ouais. Mm-hmm. Et donc à 14-15 ans, j'encadrais des jeunes sans avoir jamais joué au basket, en ayant un gymnase où on faisait du foot en salle, du basket et des études. On faisait des devoirs.
Du soutien scolaire. Ouais. Ouais.
Donc pendant un an. Et ensuite, l'année d'après, j'ai commencé à jouer au basket. Donc j'entraînais déjà le basket avant même de jouer au basket.
Ok.
Voilà.
Donc à l'extérieur du terrain avant d'y être.
Voilà. Au départ, c'était juste encadrer les jeunes pour pas qu'ils traînent à Grigny et on continue à le faire aujourd'hui. D'ailleurs, cet après-midi, il y a 200 gamins de Grigny qui vont voir le film
en avant-première. C'est trop bien. C'est full circle pour toi.
Et puis, tombé amoureux du basket. Et puis, voilà, j'ai eu un mentor qui s'appelle Gérard Sora, qui m'a recruté après un an que j'ai joué à Grigny, à Saint-Geneviève-des-Bois. Et ce gars-là, il m'a tout appris. Il m'a appris la passion du basket. Il y avait une très bonne équipe. On allait très loin en Coupe de France. Et je suis tombé amoureux. Puis fatalement, en 92, j'ai commencé à rêver de...
Ah, 92, c'est... Ah, 92, pour beaucoup de gens, c'est marrant. Cette date, elle revient souvent.
J'ai commencé à rêver d'être Michael Jordan, quoi, comme tout le monde.
Ah, bah, comme...
Donc, je tirais la langue. J'avais mes Jordan aux pieds. Ah, fallait pas les salir.
Attention.
Et je faisais du basket 20 heures sur 24. Et le reste, j'allais à l'école quand même.
Mais, ah, bien sûr.
Mais basket. Et c'était non-stop.
Ok, donc c'est venu vraiment vers 14-15 ans, pas avant, quoi.
Le virus. Bah avant, j'étais au bled, j'avais joué au foot dehors. Et quand je suis arrivé là, tombé amoureux, et depuis, c'est le basket. Et le nombre de matchs qu'on a regardé tous les deux, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a regardé autant de matchs qu'on ait regardé.
Attention, on arrive. Mais vous avez plus d'expérience que nous, donc on va voir jusqu'où ça va.
Non, Bastien, on va se calmer.
Tu te calmes tout de suite.
Parce qu'à un moment donné, il y avait des 1000 matchs par an, mais pendant une dizaine d'années. Oui.
Je me suis rapproché de 1000, mais parce que c'est média, mais j'ai commencé à ralentir là un peu.
Ah, donc
si là, vous continuez, ça, c'est que duré, j'avoue, c'est.
Ça a duré pendant longtemps et franchement, ouais. On doit être dans le top. Nombre de matchs regardés.
J'en doute pas. Jérémy, toi, le basket, c'est arrivé comment? À quel moment t'as ton premier souvenir?
Alors, moi, c'est arrivé pas loin de quasiment en même temps que Bouna, 13-14 ans. J'ai un de mes voisins qui m'a heureusement saoulé pour aller m'entraîner avec lui. Puis un jour, j'ai craqué, j'ai dit ah, vas-y, tu me fatigues, je vais aller faire un entraînement, je vais voir ce que ça donne. Et en fait, c'était le coup de foudre. Comme je dis toujours, c'est le premier coup de foudre de ma vie, le basket.
Donc, c'est beau.
Du coup, j'ai compris tout de suite que ma vie devait tourner autour du basket. Donc voilà, donc j'ai joué en essayant de m'entraîner beaucoup. Puis la chance qu'on avait en fait à Saint-Amand-les-Eaux, c'est qu'on jouait en championnat de France. Donc on a joué en championnat de France minime, cadet. Et d'ailleurs, on a pris une douille contre l'équipe de Bouna à l'époque. Et on s'en est. En fait, on a réalisé ça peu de temps après qu'on travaillait ensemble. Parce qu'en fait, on avait joué nous avec Saint-Amand contre l'équipe de Franconville en, je crois, en 64e de finale de Coupe de France. Et cette année-là, ils sont allés
Il se souvient.
Ils sont allés en demi-finale et en fait, on a pris 110 à 55. Et en fait, c'était la première fois que je jouais contre une équipe qui était quasiment composée de joueurs blacks.
Ouais, bien sûr.
Que des monstres. Et en fait, on n'a pas vu le jour. Il y avait Philippe Uri, il y avait une équipe extraordinaire.
Mais attends, ça veut dire que la première. Me dis pas que la première fois que vous vous croisez, tu lui mets une dérouillée.
Si, il nous met une dérouillée.
La première fois que vous.
Mais on se connaît pas.
Oui, mais vous, ok, vous connaissez pas.
On se connaît pas en fait. C'est après.
Et votre premier contact, c'est une dérouillée quand même.
Ouais, exactement. Exactement. Le premier contact, c'était ça. Sauf qu'on a réalisé ça après coup.
Ouais.
Et puis, voilà. Puis de fil en aiguille, on a évidemment joué. Moi, j'ai entraîné aussi assez tôt. Des cas des régions. Et puis après, j'ai organisé les concours de dunk à Orchi.
Ouais.
Jusqu'à ce que. Bon, Bouna et moi, on s'est rencontrés. Donc sur un terrain de basket à Menton, c'est la première scène de
bien sûr
film.
Celle-là elle est réelle,
j'en dirais pas plus, elle est réelle,
on sait la scène mais elle est réelle celle-là.
Il y a 98% de réel dans le film.
Oui, c'est ça aussi que j'allais vous demander, c'est que quand
réel.
Je vous disais le côté carte blanche donnée aussi à Anthony Marciano et aussi par rapport au script, c'est que vous n'avez pas tenté d'enjoliver certaines choses trop, en fait vous l'avez fait,
on a laissé faire son travail. Pour revenir sur le parcours, on a un parcours complètement identique. C'est-à-dire que on joue au basket non-stop.
Ouais.
Jérémy a gagné le France Basket Tour, qui était le 3-3 organisé par la
Fédé. Ouais.
La Fédé.
Okay.
Et moi, j'avais gagné en 94 le Red Outdoor Nike 3-3, organisé par Nike. Et donc il entraînait de son côté, il conseillait déjà les filles d'Orcher. Et moi, je conseillais plein de gens, mais gratuitement.
C'était le début du parcours entre vous en fait. Et le Slam Nation, ça arrive à quel moment à ce moment? Parce qu'il y en a plein qui ont grandi comme moi avec ces termes là quand même, qui sont assez connus, mais pour d'autres qui débarquent un peu plus tard, la Slam Nation c'est quand même un moment important pour vous. Ça arrive vers quelle période à ce moment là
97.
Ouais.
97, avec un premier show dans le cadre du tournoi international de Tourcoing.
Donc là, pour les gens qui ne connaissent pas forcément Slam Nation,
avant
c'est...
ça, avant ça, d'accord. Faut préciser.
Il y a des précisions.
Attends. Avant la Slam Nation, il y a donc Jérémy qui organise... Vas-y, Jérémy. Vas-y,
donc j'organise trois concours de dunk, trois années de suite dans mon club, au sein de mon club.
On ne se connaît pas là.
Là, vous ne connaissez pas.
On ne se connaît pas.
Okay.
Ah si, on se connaît.
Non, oui, on se connaît, mais on faisait ton truc, quoi.
Oui, on travaillait pas ensemble. Je veux dire, on faisait
moi,
chacun.
Moi, je te connaissais.
Oui, on avait nos activités chacun de notre côté. Okay. Voilà, c'est ce que veut dire Bouna. Mais et c'est vrai que j'organise trois éditions à la suite, trois années de suite, dans le cadre d'un événement qui s'appelait les 24 heures non-stop de l'USVO. Donc, en fait, c'était tous les licenciés de mon club, pro et amateur, avec donc les filles qui jouaient à l'époque à l'USVO, telles Audrey Sauré, Sandra Ledréan, Edwige Lawson. Et en fait, on participait en fin de saison à cet événement de basket où on faisait des équipes de 5, donc c'était du 5-5. On jouait pendant 10 minutes, une minute, je crois, d'interruption, de temps mort, et on reprenait 10 minutes comme ça pendant 24 heures. Et j'ai proposé à mon président de clôturer cet événement par un concours de dunk avec les joueurs, les dunkers qui m'avaient marqué lors de nos confrontations en match ou autre. Et en fait, ça a super bien, ça a été un beau succès. Et puis, du coup, on a amélioré ce concours sur trois éditions jusqu'à ce que Nike finisse par sponsoriser Philippe Morin, à l'époque, qui nous a sponsorisé l'événement et qui est venu dans le Nord voir l'événement et qui m'a proposé de amener ces dunkers, ce concours, pour le reporter en fait sur un gros événement Nike à Paris qui s'appelait je sais plus si
Nike Thunder Tour.
Le Nike Thunder Tour, c'était à Bercy.
Ah oui, oui, c'était Mitch Richmond.
C'était avec Mitch Richmond, mais il y avait un nom aussi, c'était vraiment, c'est vrai que j'ai un trou. Et en fait, il y avait Moose Sonko et Mitch Richmond qui étaient les guests, et c'était au Stade Suffren au pied de la Tour Eiffel. Ouais. Et puis là, tout le monde découvrait les dunkers, les futurs dunkers de la Slam Nation, parce que jour-là avec Buna, nous on était devenus amis. On était en contact. Buna, quand il venait jouer avec son équipe dans le Nord, j'allais le voir jouer à Denain parce que c'était la meilleure équipe dans le coin. Et puis là, on a décidé ce jour-là à Paris de
faire quelque chose,
de faire quelque chose ensemble autour de la Slam Nation, autour du concept de dunk.
Okay.
Mais les concours de smash que l'organisait Orchis, c'était le championnat de France de smash. Il y avait
La troisième édition.
Il y avait les top
la troisième édition. Cadorziani, Bamba, Samy Salomon, Casalon. C'était un plateau exceptionnel.
Tu les voyais smatcher, t'étais comme ça.
Moi, à ce moment-là, j'ai 8, 9, 10 ans. Les tout premiers trucs de téléchargement qui existent, c'est des montages de la Slam Nation où t'as des dunks. Enfin, c'est un truc d'extraterrestre. Ouais. Surtout qu'on se rend pas compte à l'époque de la taille de Cador, notamment.
Tout à fait. 1m78 et Cador est monté dans ses plus belles années. Il a eu 1m47, enregistré 1m47 de détente verticale.
C'était ils avaient tous leur style, parce que Samy Salomon avec sa puissance. C'était comme ça. Ouh, t'avais
des frissons.
Hein. Kimamba, ses figures acrobatiques. D'ailleurs, j'ai revu Abdoulaye, il est venu voir l'avant-première du film à l'Homme, à Lille, parce qu'il travaille sur Lille, il est basé à Lille. Et du coup, on s'est rappelé, effectivement, bon souvenir de la Slam qui a été, effectivement, pour nous, une belle épopée, on va dire.
C'est là que vous décidez, comme tu le disais à l'instant, de créer quelque chose ensemble, de construire quelque chose ensemble. C'est à Paris, lors de ces rendez-vous-là. Est-ce que à ce moment-là, quand vous regardez un peu en arrière et qu'on est maintenant sur le canapé Trash Talk, donc en gros tout en haut de la montagne pour reprendre l'expression, il y a des éléments dans le film où on peut voir un peu l'ambition, le côté on va y arriver, mais est-ce qu'il y a un seul moment où vous imaginez certaines des choses que vous pouvez vivre aujourd'hui, où c'était on verra déjà demain, dans une semaine, dans un mois?
Non. Très tôt, lui, il rêvait de NBA, d'une manière ou d'une autre. Je rêvais de NBA, mais complètement. Et la Slam Nation, en fait, c'était... la Slam Nation nous a permis de sortir de notre cité, de voyager, d'aller voir des matchs NBA,
bien sûr,
voir des matchs universitaires. Donc d'aller à Chicago, moi je me rappelle, on est allé à Chicago, on a fait un show à Chicago.
Ouais.
J'avais la chair de poule de partout. Jordan n'était pas là. C'est comme s'il était là.
Il y avait la statue déjà.
Oui, il y avait la statue.
Et puis on répétait, on rentre dans la salle, on répète le show sur le parquet du fameux United Center. Et forcément,
on était comme des enfants.
On était comme des gosses. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai plein d'amis d'enfance qui nous disent, de toute façon, on savait que tu allais faire quelque chose, et Buna, je pense que c'est pareil. On est toujours allé de l'avant. On parlait du France Basket Tour, c'est moi qui inscrivais mon équipe. Et je me rappelle à Lille, sur l'étape de Lille, puisque nous on a gagné l'étape de Lille, on a joué contre trois autres coéquipiers de mon club. Mais c'est moi qui avais initié tout ça. J'avais dit aux gars, bon, il y a un tournoi de 3-3, faut qu'on y participe. Mmh. Voilà, on allait toujours de l'avant, comme j'ai organisé des soirées, parce qu'on a grandi aussi avec la musique black américaine qui nous a bercé toute notre jeunesse. Et donc voilà, on est aussi fan de musique.
Mais la culture globale.
Donc les scènes dans la voiture où on danse, mais c'est réel ça. Ouais. Plusieurs fois on rentre, on est éclaté.
Et heureusement qu'on danse, parce que sinon on serait plus là.
Sinon on serait plus là.
On ouvrait les vitres.
Et d'ailleurs, c'était une question, moi, une des dernières que j'avais là par rapport au film notamment, c'est que c'est furtif, mais à un moment je me marre parce que je reconnais 2-3 visages dans le fond. Mm-hmm. Il y avait la volonté que vous puissiez aussi en être, c'est-à-dire on vous l'a proposé.
Oui, c'est un caméo, mais c'est un petit clin d'œil.
Il y a 2-3 images que j'ai vues de certains où je me suis dit, tu vois, ils vont vouloir s'inscrire aux César, aux Oscars et tout, en mode c'est bon, j'ai fait un film, mais on vous l'a proposé, c'est pas vous qui avez demandé.
Bien sûr. Non, on n'a pas non plus cette prétention de se prendre pour des acteurs, et je pense que Anthony et Jean-Pascal le font très bien, c'est leur métier.
Et en plus, c'était très très sympa d'avoir un clin d'œil à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, aidés à monter la montagne quand il fallait de l'eau, des ravitaillements, tout ça.
Bien
on avait
sûr.
Toujours plein de monde, nos femmes d'abord, la famille comme sport, et donc tout le monde a un petit rôle,
un tout petit rôle dedans,
et ça c'est lourd,
c'est une bonne réussite. Foncez, évidemment, j'ai plein d'autres questions à poser à Jérémy et Buna, et je vous laisse d'ailleurs aussi en commentaire leur envoyer des cœurs dans tous les sens, parce que c'est un vrai privilège de pouvoir les avoir justement en cette semaine de grosse actualité. Vous êtes agent aujourd'hui et évidemment il y a plein de questions qui me viennent en tête. Alors vous répondez ou répondez pas, vous voyez, mais moi au moins j'en vois. La première que j'avais, c'est la réalité d'un agent NBA que 99% des gens ignorent, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a, parce que nous l'image qu'on a un peu, c'est, d'ailleurs on en rigolait un peu en off là, faut pas toucher, ils sont en casquette, dans des gradins et tout, ils signent des gros contrats, ils sont en costard, on les voit pas. C'est quoi la réalité d'un agent NBA en fait ?
Ouf, déjà c'est une réalité qui est, c'est un train de vie qui est très difficile, dans le sens où ça ne s'arrête jamais.
Vous n'avez pas de vacances.
Il n'y a pas de dimanche. Voilà, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui voient un peu le résultat et les paillettes, mais ce qu'on se dit, c'est que pendant que vous dormiez, on travaillait, pendant que vous vous réveillez, on continue à travailler, et pendant que vous repartez en vacances, on continue à travailler encore. Donc, et ça, on le voit pas. On voit pas. Donc, le quotidien, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de matchs, et beaucoup de gestion humaine. Bien sûr, la gestion sportive et la gestion des environnements, et c'est non-stop. Et c'est non-stop, et il y a un niveau de stress aussi qui est toujours présent. Mais bon, en même temps, on fait ce qu'on aime. Donc pour nous, on ne travaille pas, on fait juste ce qu'on aime.
Et c'est le danger aussi. En fait, quand on fait des métiers de passion comme ça, on n'a pas de limite. Et effectivement, voilà, c'est aussi.
Je vois bien.
C'est beaucoup, voilà. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et voilà, tu vis aussi ta passion basket dans une fonction différente. Mais voilà, j'imagine que c'est. Mais c'est vrai que c'est très, très. C'est un engrenage, en fait. C'est un engrenage dans lequel on est. Et qui nous plaît, et c'est pas toujours facile pour effectivement notre environnement proche, mais c'est vrai que du coup c'est comme ça depuis 30 ans en fait.
Les gens savent les règles, enfin moi je dis ça sans dévoiler ma vie privée, les règles sont très claires, que ce soit avec mes potes ou ma famille. Il y a des moments, là par exemple ces semaines de trade deadline, moi la semaine dernière j'ai envoyé un texto à vendredi prochain, parce qu'ils le savent que pendant cette période, moi je suis debout jusqu'à 7h du mat. C'est ça en fait, c'est le côté avoir des règles qui sont très claires, et ça fait partie en fait de votre mode d'emploi, vous êtes comme ça.
Tout à fait.
Oui, écoute, d'abord, il y a vraiment un élément important qui est nous. C'est que s'agit d'une histoire d'homme. C'est-à-dire que ce qui nous attire, c'est bien sûr le talent d'un joueur, mais un gamin qui a des rêves en grand.
Bien sûr.
Et nous qui avons envie d'accompagner quelqu'un qui rêve. Pour aboutir. Et c'est vrai que ça nous a toujours drivé, et ça nous drive encore aujourd'hui. Quand je vois qu'on était allé voir un match de cadet à Créteil il y a 15 jours.
À Charenton.
À Charenton. Donc.
Vous pourriez aller voir de la Détroit slovène, que ça vous intéresserait quoi en fait. C'est la passion des humains et du basket.
Surtout que jamais de la vie un agent NBA va venir voir un match de cadet à Charenton. Mais jamais de la vie.
Ok.
Ça n'arrivera pas.
Ça n'existe pas.
Mais vous, oui.
Ouais, après c'est ce qui fait aussi notre force. C'est-à-dire quand on accompagne un gamin, on le voit à intervalles réguliers, et c'est à nous qui l'a faire, en tout cas à la team comme sport, parce que aujourd'hui c'est pas que Bouna et moi.
J'allais y venir justement, ouais.
Voilà, on s'est staffé depuis, on a quasiment embauché une personne tous les deux ans, on est 20 salariés, donc.
Donc c'est la question que j'avais posée aujourd'hui, parce que vous êtes les deux visages, mais c'est pareil, grosse guillemets. Hein. Les gens connaissent Trash Talk, il y en a beaucoup qui disent Trash Talk, c'est Bastien Alex, pas du tout, nous, et il y a beaucoup de monde aussi. Vous aujourd'hui comme sport, il y a combien de personnes à peu près, grosso? Une vingtaine de personnes, ouais. Ok.
Il y a 9 agents à plein temps, il y a 8 personnes sur la partie com marketing.
Ok.
Voilà, dispatchés entre la France et les États-Unis. Et puis là, on continue de grandir et de. On a un nouvel agent qui est rentré de Pologne, un agent de Turquie.
C'est ça, j'allais aussi vous poser la question, c'est qu'aujourd'hui, en termes de joueurs français, vous êtes connu pour en avoir surtout les plus grosses têtes qu'on connaît, Victor, notamment Rudy, Evan encore aussi, Evan Fournier. Mais on commence à voir d'autres visages qui ne sont pas forcément français. Ça, c'est un truc aussi que vous avez souhaité ou qui s'est présenté, c'est-à-dire d'abord des histoires humaines françaises aussi, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est une proximité et un côté humain plus facile. Et maintenant, ça s'écarte un peu à l'international. Vous en êtes où, en fait ?
Le marché reste focus, on reste focus, quoi qu'il en soit, sur notre marché. Le marché français, ouais. C'est aussi le marché francophone, naturellement avec l'Afrique francophone, et d'autant plus avec, je dirais, les racines de Bouna et... Mais et puis moi, ma femme est aussi du Sénégal. D'ailleurs, elle m'a forcé de me marier avec une de ses cousines.
Okay.
Non, rien à voir. Ma femme n'était pas du basket. Et...
Il n'a pas résisté longtemps. Hein.
Voilà. Je l'attendais pas.
Mais oui, on a toujours compris qu'on avait un marché de niche, mais qui était assez assez, je dirais, il y avait assez de joueurs pour déjà s'y concentrer, mm-hmm. se concentrer sur ce marché-là. Mais après, naturellement, on a des agents étrangers voilà, qui sont rentrés dans Comsport comme deux jeunes agents américains. Mm-hmm. Donc naturellement, on commence à, en tout cas nos agents commencent à travailler sur des profils étrangers. Puis on a eu de façon dans le passé, Bouna est allé recruter Mozgov à une époque quand il jouait au Khimki Moscou et il pensait même pas qu'il pouvait sortir de son contrat. Il a réussi à le sortir de son contrat en, en proposant un buyout que son équipe pensait que c'était un buyout trop élevé et qu'il ne pourrait jamais être payé. Puis finalement il a réussi à le sortir et à le placer en NBA. Voilà,
voilà, c'est beau. Ça, l'anecdote,
c'est des histoires. Vas-y, balance.
C'est qu'il y a, je crois qu'il y a France-Russie, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça.
Alors c'était quand, c'était en 2009 ou 2009, je sais plus.
Dates,
championnat d'Europe.
Bonne mémoire,
voilà. Et Mozgov en face qui joue très peu à Moscou. Il jouait 5 minutes à Moscou. Bon, il fait très mal à la France. Puis Jérémy, bah, il m'a dit, celui-là,
t'en penses quoi?
Celui-là, t'auras du mal à le signer. Hein. Je dis, ah non, ça c'est pas notre marché, mais ça m'a tellement motivé.
Ben voilà, en fait c'est, regarde-moi, faut pas me mettre de barrière un
c'est
peu.
C'est un challenge.
Côté. Ouais, c'est le challenge.
Et l'histoire, c'est qu'après le match, en passant par les vestiaires, j'ai fait une Jérémy.
C'est quoi?
Je fais une Jérémy, donc le joueur qui passe dans le couloir, je l'appelle, je fais Timofey, Timofey, donc il vient lui speak English, je fais a little bit, I want to marry you. Il me regarde.
C'est quoi cette approche?
Il me regarde et je dis, I want to marry you. You know?
So, après, ça l'a fait rire. Ouais. C'était gagné. Et, du coup.
Exactement.
Et t'as brisé la glace.
Après, je dis, mais ce serait bien qu'on se pose. Quoi. Il me dit, quand tu veux. Je dis, bah, après le match, là, deux heures. Et deux heures après, on se rencontre, la salle de réunion. On parle. Et au bout de cinq minutes, il se lève, il dit, ok, let's get to go. J'ai dit, oh, attends, faut qu'on flirte un peu.
Faut un contrat de mariage. Ouais. Faut un contrat de mariage.
Et on a signé Mozgov.
Et vous avez signé Mozgov.
Là, c'est comme Salah Mejri, hein. Salah Mejri aussi. Hein. Il jouait contre l'équipe de France un tournoi à Pau. Et en fait, sur le match, il fait 5 contre. Et il y avait quelques-uns de nos intérieurs NBA. Et, et puis un grand 2m17 qui avait commencé le basket très tard. Et puis pareil, on a réussi à le sortir de Tunisie. Voilà. Et donc, c'est effectivement, il y a quelques histoires de joueurs étrangers. Qu'on a réussi à.
Mais la meilleure histoire,
vas-y,
c'est DJ Manga.
Alors j'allais dire,
parce que la
pour
scène,
la commu belge évidemment, qui est énorme chez Trash Talk, Manga c'est vraiment un game changer pour vous et pour.
Le premier,
pour
c'est
tout.
Toujours le game changer.
Mais bien sûr.
Donc la scène que vous voyez dans le film, mais elle est
authentique.
Elle est authentique. Après le match
et dans l'hôtel pour eux aussi de New York, sans vouloir spoiler la totale aussi.
Bah écoute, ça c'est mieux que la réalité.
Ok, c'est mieux que la réalité.
D'accord.
Mais
ouais, DJ,
donc,
on a fait les bed and breakfast à New York. Ouais.
Après le match, il me dit, écoute, j'ai vu notre premier jour NBA, viens tout de suite. J'ai dit, bah là où je suis, c'est impossible. Ouais. Et donc il m'appelle avec DJ Manga.
Incroyable.
Ouais, de toute façon, quand je le vois, je me dis, bon, ce gars-là, il a le profil du joueur NBA, puis une histoire incroyable. En plus, c'est réfugié politique.
C'est extraordinaire comme
type. Non, c'était.
Et alors, justement, pour rebondir sur l'élément dont tu parlais, et je suis content d'ailleurs que ce soit au centre, notamment de notre conversation, parce que c'est quelque chose qui est souvent, comme je le disais, un peu flou de la part du public extérieur. C'est quel est le lien que vous avez, que vous créez avec le joueur? Parce que souvent, l'image qu'on a d'un agent, c'est il est là, il est en costard, dans un coin, il s'assure que. Vous êtes d'abord sur la création d'une relation assez tôt, vous êtes en accompagnement permanent avec ces joueurs, mais ça demande un travail quotidien pour savoir comment ça va, si ça va pas être là. C'est quoi votre relation avec vos joueurs?
Ça dépend du profil déjà.
Ouais.
Ouais.
Mais il y a une base qui est importante, c'est d'essayer de connaître l'homme et son environnement et de toujours être proche de la personne. Voilà. La partie technique, bien sûr, elle existe parce qu'il faut conseiller techniquement. Mais notre force, c'est de créer ce lien de confiance avec le joueur.
Dans le film, c'est notre force, c'est le contact avec le joueur.
Récupère les punchlines du film.
C'est exactement ça.
Ouais.
Je veux dire, c'est comme ça. C'est ce qu'on fait tous les jours. On essaye, comme on dit, les Américains disent de care, quoi, c'est-à-dire
d'être bienveillant envers vos joueurs.
D'être bienveillant.
Mais sans être des gourous. Désolé, Pierre Ninet. Ce qui est important, c'est qu'on veut que nos joueurs grandissent. Donc on leur dit toujours, à un moment donné, c'est vrai qu'on fait attention aussi que les joueurs ne soient pas non plus trop materné, parce que si le joueur est trop materné ou malheureusement quelqu'un dans l'environnement reste garde un certain contrôle, c'est jamais bon. En fait, le joueur il grandit pas non plus dans le basket.
À mon avis, on a perdu des joueurs parce qu'on était trop frontal, trop direct, et on disait juste la vérité. Mais on veut être égal à nous-mêmes.
Oui.
On va pas se mentir. Donc, on va pas mentir au joueur. Donc, quand le joueur pue de la gueule, on est obligé de lui dire, écoute,
si tu pues de la gueule. Ça mérite d'être carré. Il faut pas mal le prendre.
Voilà, c'est une caricature pour dire, on essaye d'être direct et pouvoir impacter positivement, mais il y a une volonté de grandir et d'avancer, de progresser. Ouais.
C'est un jeu en fait de jonglage particulier parce qu'en fait, à la fois, vous êtes vous-même et donc il y a quelque chose de très parental. Enfin, il y a quelque chose, sans prendre la place de quelqu'un, il faut être à la fois présent et distant, à la fois être parental. Vous avez c'est sensible parfois, c'est-à-dire que vous avez eu des situations dans lesquelles vous êtes dit oula, attention, j'ai un rôle de père qui n'est pas le mien. Enfin, vous voyez, avec des joueurs où vous arrivez toujours à trouver le bon curseur.
Non, je joue pas le rôle de père. D'abord, il y a un élément super important, c'est qu'on est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on joue pas un jeu.
Ouais.
On est nous-mêmes.
Ah, je le vois là sur le canapé.
Quand on parle aux joueurs, voilà, il y a ce rapport-là en disant mais nous-mêmes, normal. Donc du coup, on n'essaie pas de remplacer les parents. On essaie d'avoir une relation dans les deux sens. Quoi.
Ouais, bien sûr.
Voilà. On voit ton potentiel. Tu as un rêve. On t'aide à l'aboutir. Bah, si tu vas à gauche et que tu vas pas au bon endroit, on te dit mais arrête d'aller à gauche. Faut que tu changes de direction. Et on n'a aucun problème à dire stop à un joueur. Change de direction. Zéro problème. Et ensuite, si le joueur il écoute et on avance, ben on avance et tout va bien.
On avance vite.
On n'a jamais essayé de contrôler un joueur et d'être sur le joueur et de créer une relation un peu malsaine, non jamais.
Ouais. Donc en fait, vous arrivez quand même, parce qu'avec les années, forcément, parfois on change, on évolue et tout, vous arrivez à garder quand même une espèce de ligne de conduite, la vôtre, alors qu'il y a différents joueurs avec différents parcours, avec différentes familles, enfin faut
ouais, différentes personnalités ouais. Par exemple, je donne un exemple ouais. Je vais à Minnesota voir Rudy, il dit que ce soit Bouna ou moi, non, vous n'allez pas à l'hôtel, vous venez à la maison. Voilà. Et puis il y a des joueurs qui te proposeront pas, mais ça pose pas de problème. Je veux dire, c'est chacun sa personnalité, chacun en fonction de ce qu'ils ont envie aussi, tu vois, on peut aussi s'adapter. Et puis des fois c'est même nous qui allons dire non, là on va pas venir chez toi parce que je vais être tout le temps au téléphone. C'est une période intense et puis ça va pas être plaisant pour personne.
Surtout dans cette période de trade, là, tout le monde est un peu en panique.
Tout le monde est un petit peu comme ça. Et là, c'est la question que j'avais posée, c'est que parfois vous construisez ces relations. Nous, on s'imagine plein de choses. En tant que médias ou les gens de la commune qui suivent les transferts évidemment avec nous, on sera jeudi soir avec eux pour vivre la deadline. Quand il y a un transfert qui tombe, comment se passent les deux heures qui suivent entre vous, par exemple, et le joueur ? Parce que vous êtes les premiers à avoir l'information. Vous devez le prévenir en premier, vous l'appelez. En fait, ça, après, chaque cas est différent, mais comment ça se passe ?
En général, avec la relation qu'on a avec les clubs nous préviennent. Voilà, on va faire ce trade, vous voulez juste prévenir. Donc, souvent, on appelle le joueur. Et on le tient au courant. Et des fois, c'est putain, j'ai pas envie d'aller là-bas. Ça,
des fois, c'est la crise.
Mais oui, c'est chaud parfois.
Voilà,
on l'a vécu avec Evan. Quand Evan devait aller à Détroit, forcément.
Qu'il était à New York et qu'il a été trade à Détroit.
Parce qu'il a une famille. Et puis, bon, il y a toujours des fois des situations qui sont forcément plus délicates. Hein. Et puis, des fois, c'est des bons trades, c'est des bons changements.
Ouais.
Il y a des trades qui sont avantageux. Il y en a d'autres où le joueur il part quand Nicolas va à Philadelphie.
Alors que la famille est à Los Angeles.
Ouais. Voilà quoi. Après il revient, moi il a pas tellement envie de partir quoi, parce que
tu m'étonnes.
Installé, c'est un joueur important, il aide l'équipe. Mais le puzzle qui manquait c'était lui.
Ouais.
L'équipe Darrell Morey a toujours aimé Nicolas, toujours. Il disait, j'ai eu l'occasion de l'avoir, je l'ai.
Je le veux.
Voilà.
Mais c'est vrai que ça c'est pas simple parce que quand tu vois que Schroeder a encore été tradé, c'est le 8e trade. Je pense que ses enfants ils font que des cours par correspondance.
C'est compliqué hein. Malheureusement pour lui, on le voit bien. Après c'est l'image qu'on a, c'est le business de l'ennemi et c'est comme ça. Mais donc ça veut dire aussi que quand il y a une situation comme ça, vous n'êtes pas que en on reçoit l'info et passe plat. Vous avez un c'est quoi le niveau de droit de regard que vous avez sur les transferts? C'est-à-dire que vous pouvez dire ah non, dans telle équipe, pas dans telle équipe, j'appelle le joueur et la famille pour comment ça se passe?
Il y a deux cas de figure. Ouais. Il y a le trade en fait où l'équipe dit bah, si tu as une situation, tu nous le dis et on essaie de voir si on peut mettre le joueur à tel endroit. Donc c'est déjà arrivé de dire voilà, il y a deux équipes qui sont intéressées par notre joueur et on veut aller dans cette équipe-là.
D'accord.
Parce qu'il y a un besoin du profil du joueur. Mais dans la plupart des cas, le joueur est tradé, on n'a pas notre mot à dire.
Et dans là, la plupart des cas, ouais, vous n'avez pas votre mot à dire.
On n'a pas de mot à dire. Okay. Le joueur, il part parce que c'est un package. D'accord. Alors après, il y a toujours encore deux sous-cas. Quand soit un joueur qui a un problème de comportement ou autre chose, et donc le joueur le lâche pour le mettre ailleurs, ou qui a un contrat trop lourd, ou alors, dans le cas de Nicolas Batum, c'est que chaque année, il y a la moitié de la ligue qui propose un contrat. Chaque année, en fin de contrat, il y a 15 offres qui arrivent. 15.
C'est
même dans un, il y a un an, c'était exactement le cas. Et dans ce cas-là, dans chaque trade, les gens ils veulent Batum, parce que Batum, c'est un vrai joueur de basket. Voilà.
Puis bien pour le collectif, pour tout.
Donc, dans les trades, ils disent on veut Batum.
Ok. Et détail, mais pas des moindres quand même, parce que pareil sur l'image qu'on se
Attends,
fait.
Attends, je vais rassurer Nicolas, je ne dis pas que tu vas être tradé.
Non. En pleine semaine de deadline.
Parce que
se dire, non. Allô. Allô. Oui, non, ça capte.
Attends, j'appelle Lawrence Frank. Lawrence, don't do it.
Non, en plus, ils sont en train de se débattouiller avec Harden. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Enfin bref. D'ailleurs, ça là-dessus, nous, l'image qu'on a aussi, c'est qu'on. On a nos notifs, on est abonné à plein de choses, etc. C'est une question conne, mais je sais qu'il y en a plein dans la commu qui doivent aussi se la poser. C'est vous découvrez des transferts sur les réseaux sociaux ou vous êtes en avance là-dessus et vous savez ce qui se passe?
On sent qu'un joueur, quand un joueur va être tradé,
le
cas de Schroeder, à l'intérieur, c'est chaud ce qui se passe. Donc
à Sacramento.
C'est chaud. D'accord, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais. Mais à un moment donné, on se dit, bon ben voilà quoi, Westbrook, lui, ça passe pas quoi.
Okay.
Donc du coup, tu sens que le gars il va être aidé quoi.
Mm-hmm.
Mais souvent, il s'est passé des choses horribles. Hein. Moi, je suis à un match de basket. Harrison Barnes, il est à Dallas.
À la mi-temps.
C'est le plus gros travail de Dallas tout l'été. Et c'est le seul à être dans la salle. Tu le vois, le mec, c'est un fou de travail. Et là, il est en plein match. Et il y a un gars dans les tribunes qui dit, You got traded.
Putain.
Et le gars, il part comme ça, la tête baissée.
Bah, c'est le gros play de mythique hein, sur la tête de Harrison Barnes. Ouais, à la mi-temps.
Et c'est dur.
Ça, c'est chaud. Par exemple, nous, on a vécu en fait les 1 an d'un séisme quand même, quand on a vu Luka Doncic être transféré, etc.
Nous, on a mangé avec le GM une semaine avant.
Nico Harrison ?
Oui. Nico Harrison et leur scout européen. Et je me rappelle que j'avais posé la question... Et j'ai senti que ça a été bon, il avait balayé la question d'un revers de bras, et on a senti qu'il y avait un malaise, parce qu'en plus leur scout européen était slovène aussi. Mm-hmm. Et d'ailleurs il est parti parce que lui il a pas supporté non plus le trade. Mais c'est vrai qu'on était une semaine avant à table
à Paname
avec Nico Harrison et on était en tous les quatre en fait avec le scout européen slovène, Nico Harrison.
Il a incroyable.
Ouais, c'est assez marrant.
Mais par contre, ça, même si vous avez senti le malaise, vous avez appris le truc comme tout le monde à ce moment-là, ou c'est chaud.
C'était en cours.
C'était en cours.
D'autres problèmes, bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Scène là, enfin, derrière la scène. Donc après, tu sais pas tout. Hein. Tu sais pas tout ce qui se passe.
Ouais, bien sûr. Mais c'est chaud à ce moment-là, parce que tu t'apprends des trucs quand même sismiques. Mais il y a cette déontologie de l'agent tu gardes ça, vous gardez ça entre vous, il n'y a rien, vous signez des NDA, comment ça se passe en fait? Parce que moi, quand il y a des situations contractuelles, parfois tu dois rien divulguer et tout, mais ça fait partie du métier de Omerta, ou tu sais bouche cousue.
On a quand même une obligation de confidentialité, donc du coup on ne peut pas prendre la presse. Bon, certains peuvent le faire, hein. On a vu Rich Paul annoncer, voilà, simplement dire mon joueur il est out, d'accord, bah, Anthony Davis quand il était à New Orleans. À un moment donné, il sortait du match, avant la fin du match, il sortait, je mettrais plus un pied sur
plus jamais un maillot.
Et là, c'était OK, on est out. Donc, il faut juste trouver l'équipe.
Mm-hmm.
Donc, ce rapport de force-là, il existe. Et certains agents l'annoncent, hein, en disant non, mon joueur, il est out. Hein. Giannis, à mon avis, s'il bouge pas là, je serais surpris. Hein.
Là
Giannis, s'il bouge pas, je suis très surpris.
Moi aussi, je suis pas au même niveau que vous. Mais j'avoue que là, le revoir sous un maillot des Bucks, ça me semble très compliqué quand même. Je pense aussi. Zone d'ombre, là aussi, et vous pouvez y répondre, ne pas y répondre, mais je sais qu'aussi
on
vous êtes en transparence.
Dire,
absolument.
Tu peux y aller.
Moi, je m'engage pas, c'est Bouna qui s'engage. Hein.
Quand on voit, il y a tout le temps des sommes astronomiques qui sont publiques, qui sont diffusées sur les contrats des joueurs NBA, etc. Et les gens n'ont pas parfois tous les éléments de les taxes, etc. Bon, on va pas faire un cours là-dessus, mais les agences, ça se passe comment? Et les agences, c'est sur les contrats. Vous prenez une partie, c'est l'agence qui prend une partie, c'est vous, ça se passe comment contractuellement? Moi, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit, si tu pouvais leur demander, comment un agent gagne sa vie en fait par rapport au contrat de joueur NBA?
Alors, On va essayer d'expliquer très rapidement. D'ailleurs, allez voir le film, c'est expliqué.
C'est semaine. Je vais pas tout spoiler.
Donc,
c'est vrai que dans le film.
Non, tiens, rien, comme ça, il va être obligé d'aller voir le film.
Ouais, ouais. En gros, quand le joueur est drafté, on gagne pas grand chose.
Oui.
Voire, on gagne rien du tout. Parce qu'il y a trop d'investissements avant. Le joueur, quand le joueur est drafté, en fait, il y a déjà un tableau en fonction de la position de la draft, une rémunération.
Oui.
La négociation est très minime. On négocie, en fait, le montant, je ne sais pas si c'est clair, le montant entre 80% et 120%.
Sur cette marge.
Si le joueur il est drafté, par exemple, numéro 10, qui gagne 100, on peut négocier. En fait, 80, c'est le minimum. D'accord. Et on peut négocier jusqu'à 120. Voilà. Et en fait, on gagne de l'argent que sur la partie entre 80 et 100. Et 120. D'accord. Donc, qui est très minime
par rapport au premier contrat.
Donc, premier contrat, on ne gagne pas grand-chose. Et par contre, en revanche, quand le joueur signe son deuxième contrat qu'on appelle free agent, d'accord, le joueur est free agent, on prend 4%. D'accord. 4%, mais c'est pas 4% du montant global.
Global, parce qu'il y a
ce qu'on appelle l'escroc, d'accord, qui est une retenue, parce qu'il y a un équilibre.
Ouais, précision,
parce que
l'escroc, c'est pas bon en français.
Alors, escroc avec un W, hein. C'est pour que les gens aient le terme.
Voilà, qui permet en fait de voir est-ce que les joueurs et les clubs gagnent l'accord 51-49. Voilà, il faut qu'il
répartition,
soit
de
répartition, et en fonction des résultats. Il y a un équilibre, donc des fois l'escroc part et des fois l'escroc il est remboursé. Mais en gros, on prend 4% des montants bruts du joueur.
Ok. Et quand vous êtes, on peut dire que avec toutes ces conversations et tout ce temps que vous avez passé, moi il y avait un truc qui me fascinait, c'est quoi le meilleur conseil de négociation que vous avez reçu en grandissant, peut-être en côtoyant d'autres agents? Est-ce qu'il y a un truc, une espèce de règle d'or que vous appliquez à chaque fois et vous ne vous y attendiez pas, mais vous l'avez découvert sur le tas?
Never make the first offer.
Ne jamais prononcer le
vrai. Donc en fait, je ne sais pas si tu connais Donald Dell.
Non, mais
c'est l'un des premiers agents au tennis.
Ok.
D'accord. Donc
c'était l'agent du père de Joachim Noah.
Voilà, il était à AMG.
Premier agent de Joachim aussi.
Ok.
Et il a écrit un bouquin, plus jamais la première offre. Et puis ensuite, dans la négociation, malheureusement, il y a qu'une seule école, c'est l'expérience.
Ouais.
Et moi, ce que j'ai appris, j'ai partagé là, comme ça, ils vont tous entendre. Tous les autres agents, il n'y a pas de problème. On est là pour partager. Soyez patient dans vos négociations. On est toujours pressé de faire un deal. Mais plus on prend le temps de faire le deal, meilleur est le deal.
C'est marrant parce que moi j'ai essayé. Après, on est à d'autres niveaux, hein, mais je le vois même au sein de Trash Talk. Hein, tu te dis jamais, il faut présenter le premier chiffre parce que sinon ça peut être à ton désavantage. Mais quand il y a des transferts comme ça qui peuvent avoir lieu, vous avez déjà été dans une situation qui concerne par exemple un de vos joueurs où un transfert a failli avoir lieu, vous êtes à. Et il reste one step, hein, il reste vraiment une étape et le truc s'écroule. C'est des mois de conversation et ça mène finalement à rien. C'est fréquent ou c'est très rare?
Et quand vous irez voir le film.
Ouais, oui, bien sûr, non, mais oui, mais en même temps, voilà, je tease.
Ce fameux 2012 et le contrat de Batum, là, notre niveau de stress, il est au maximum. Parce que si ça passe
café,
pas,
là, en face de la salle.
Si ce contrat ne passe pas, on n'est pas là. On n'est pas là aujourd'hui.
Voilà.
Tout simplement. Et donc, il y a un niveau de stress qui est au maximum et un contrat qui dure une éternité. Il y a les JO, enfin, il y a tout un climat de stress.
Tout un tas de choses à gérer et tout.
Voilà. Et c'est vrai que, là, dans le cas, c'est passé. Mais il est arrivé qu'on ait eu des accords sur la draft jusqu'à aujourd'hui. D'accord, et c'est pas passé. Donc, le joueur, un club nous a dit on va prendre votre joueur, pas qu'une fois.
Ouais.
Ils n'ont jamais pris le joueur.
Là, à ce moment-là, vous le prenez personnellement ou c'est comme ça, c'est business, c'est américain?
Déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on ne donne pas ces informations-là, ces informations qu'on partage, Jérémy et moi, mais on ne la partage pas. Tant que ce n'est pas fait, on patiente, quoi. Mais bon, derrière, t'as bien les boules, quoi. Parce que quand tu penses que ton joueur, il va être, par exemple, 25 et que ton joueur, il est 37, c'est pas pareil.
C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil pour la draft, bien sûr.
C'est pas pareil, hein.
Et dans l'année, justement, parce que vous avez un agenda hyper complet, là, on est en pleine semaine de trade deadline. Nous, on le sent, évidemment, que quand c'est la reprise de la NBA ou que c'est la free agency ou que c'est la draft ou que c'est la trade, on a des très gros pics de concentration et de travail. Tu disais tout à l'heure, Bouna, que c'est quand même un travail qui vous prend toute l'année. Les plus hauts pics, pour vous, c'est les mêmes que les nôtres, entre guillemets, c'est-à-dire début de saison, free agency, trade deadline, draft, ou est-ce qu'il y en a qui sont un peu sous-estimés et attention, ces moments-là, je ne sais pas, la loterie ou les playoffs, il y a des trucs qu'on n'imagine pas forcément pour les agents.
Nous, on est au taquet tout le temps. Hein. Non, c'est vrai qu'il y a des pics obligatoires comme la draft.
Il n'y a pas beaucoup de répit. Ouais.
Voilà,
ouais.
La draft, c'est tel jour et t'es drafté ou pas.
Ouais.
Donc du coup, il y a quand même le niveau stress, il monte. Mm. La free agency. Quand ça arrive le premier, le joueur est free agent, c'est alors. Donc, ça arrive pas, c'est dur.
Nous, on a vu ces histoires de tampering, là, qui arrivent. On va pas vous mettre dans des situations de tampering. On a vu ces histoires dans NBA de tampering où on se dit, bon, bah, le 1er juillet, à minuit une, les contrats sont annoncés et tout. Nous, parfois, on a l'impression que c'est un peu bullshit parce qu'on se dit, mais attends, ça veut dire qu'ils ont discuté quand même pendant des semaines, forcément, les agents avec les joueurs. Ça peut pas être à minuit. Oui, du coup, c'est pour 3 ans et 90 millions. Enfin, il y a forcément tout un tas de conversations qui ont lieu précédemment.
Il y a des conversations avant, mais s'il y a des choses qui se passent. Qui se passe réellement
à la deadline.
Moi, j'ai vécu un truc live où j'étais à Dallas, où il y avait l'année où Steve Nash est parti à Phoenix.
Ouais.
Donc
2004, 2005,
et nous, ouais. On avait DJ Mbenga qui était free agent. Donc, on est là en train d'attendre. On est dans un café. Il y a Mark Cuban et Donnie Nelson qui parlent d'abord à Bill Duffy pour Steve Nash. Le rendez-vous se passe en 30 secondes. Ok, Steve is out. Le mec il se lève. Comme ça. Le mec il se lève, il s'en va. Et puis donc du coup, sans panique. Donc la priorité, ça devient, il faut qu'on signe un meneur. Mmh. Et là, il signe Marcus Daniel, qui avait fait les playoffs. Alors, il avait joué que un mois. Hein. Mmh. Il a fait que les playoffs. Le mec, il jouait pas avant, mais il était bon durant les playoffs. Donc derrière, ils appellent l'agent, d'accord, de Marcus Daniel. Ils proposent Marcus Daniel, je sais plus combien, 35 millions, etc. Mmh. Voilà. Et puis il y avait un autre cas derrière, et nous, on arrivait derrière. Donc et ça, c'est réel.
Il y a un ordre de priorité.
Ouais. Ouais, bien sûr. Pour finir, j'ai deux, trois dernières petites questions, évidemment. C'est, nous, on a eu le sentiment en arrivant dans les années 2000, la fin des années 2010 et début des années 2020, qu'il y avait certaines stars américaines qui commençaient aussi un peu à pas à s'essouffler, mais on voit quand même une page qui se tourne avec des LeBron, Stephen Curry, Kevin Durant qui commencent à se rapprocher de la retraite. Moi, l'expression que j'utilise souvent de mon point de vue niveau média, c'est que. Quand Victor Wembanyama s'est rapproché de la NBA et qu'on a vu cet astéroïde, il n'y a pas d'autre mot, arriver, moi je dis souvent, j'ai repris 10 ans dans la machine, comme s'il y avait un jeton qui arrivait. On voit certains éléments, allez voir le film, comme ça on le répète à chaque fois, qu'on peut voir par rapport à la rencontre et comment ça s'est fait, mais vous avez senti quelque chose d'extraordinaire ou même là aujourd'hui vous continuez à avoir des choses extraordinaires avec Victor? C'était quoi en fait votre ressenti initial?
Tu sais, la passion en fait s'arrête jamais. Effectivement, t'as ces joueurs qui sont des joueurs d'exception, LeBron, Stephen Curry, mais quand tu le vois à l'échauffement, c'est exceptionnel quoi. Ouais. Tu le vois toujours à l'échauffement, t'es là, tu le regardes, mais c'est un magicien le mec. Et c'est vrai que Victor apporte ces touches que il est aussi excitant ce joueur quoi. Et c'est vrai que moi j'imaginais qu'après les JO de Paris qu'on allait se poser un peu, se calmer, et puis Jérémy me dit tu verras, on va avoir faire mieux. Je dis ouais okay, Jérémy, ok, et ben il a raison. Voilà, là on est parti encore avec du matos, puis il y a des jeunes qui arrivent, ça s'arrête
qui arrivent,
jamais,
hein. Ça s'arrête pas,
hein. Et c'est excitant parce que le talent plus aussi l'humain. Mm-hmm. Parce qu'il y a une génération de joueurs là qui sont vraiment humainement top, sur lequel on se régale quoi.
Oui, parce qu'en plus il y a ce croisement avec une génération la française. Il y a plein de gens qui viennent à chaque fois me contacter en me disant mais qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression que la France devient un vivier. Vous êtes au premier plan là-dessus, vous le sentez qu'il y a, en plus ça se croise bien avec vous, l'évolution extraordinaire de Comsport. Comment vous le voyez, l'analyser ce truc, c'est le vivier français, c'est la formation, comment tu le vis toi Jérémy?
Ouais, je pense que l'image du football, on a quand même un vivier dans le sport collectif, dans le sport même en général, assez exceptionnel, et ça se renouvelle, et puis il faut pas se mentir, il y a aussi l'effet Victor qui a emmené aussi beaucoup de monde sur son dos, parce que c'est aussi comme ça, je veux dire, c'est, voilà, il y a des génération, quand tu as un joueur générationnel, ben, finalement, il fait un peu rêver toute la planète entière et toute la planète NBA par rapport même à la France, par rapport à la culture de jeu qu'on a, la formation qui est réputée évidemment pour être bonne, parce que je pense qu'aujourd'hui, on le voit aux États-Unis, il y a eu énormément de critiques ces dernières années, même encore un des premiers avait été Kobe à en faire beaucoup par rapport à leur système. Et c'est vrai que bon, notre système, il est quand même bon. C'est pour ça que nous, on a aussi beaucoup, en tout cas, conseillé ou essayé de pousser nos joueurs à plutôt passer pro en France.
En France.
C'est selon nous la meilleure façon de se préparer pour effectivement le très haut niveau, et on l'a vu avec plein de joueurs qui sont partis à l'étranger ou même en université, parce que des joueurs universitaires qui ont réussi en NBA français, il n'y en a pas tant que ça. Si on compte peut-être Joakim Noah, Ronny Turiaf, peut-être maintenant Diabaté.
Oui.
Bon, ils sont peut-être 5. Combien sont partis dans le système universitaire?
Pour un moment, Tariq, mais c'était Tariq Abdul-Wahed.
Oui, c'est le premier. Ouais. Mais c'est vrai que comparativement à ceux qui ont fait des grandes carrières comme Tony, Boris Dio, Rudy, Evan, Nico, bon, on peut en citer quand même beaucoup qui sont les Français qui ont fait les plus grandes carrières NBA ou qui la font. Donc, voilà, après, pour revenir à Victor, c'est sûr que quand on l'a vu jouer pour la première fois, on avait entendu effectivement des choses très tôt quand il avait 10 ans, mais c'est vrai que quand on le voit jouer pour la première fois, on voit tout de suite qu'il a quelque chose. Voilà, quand il parle de magie, malgré sa taille, il a quelque chose de différent, et puis aussi une maturité effectivement exceptionnelle, un mindset orienté sur le travail et sur cette envie de devenir le meilleur, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y en a plein qui veulent devenir le meilleur, mais la réalité, c'est que quand tu dois bosser, comme on l'a vu cet été, il nous a demandé de faire des choses différentes. Bouna l'emmène faire une retraite chez les Shaolin.
Ah, c'est toi qui a... Enfin...
Ouais.
Pardon, vas-y Jérémy, après j'ai hâte de te demander.
Ouais, donc Bouna, ouais. Bouna, voilà, quand on voit ça, je veux dire, Victor, quand il fait sa retraite chez les Shaolin, c'est 8 heures d'entraînement par jour.
4h40 le matin, voilà. Ça commence.
Et 2 heures de méditation, donc alors qu'il pourrait être sur un yacht, les doigts de pied en éventail, à siroter.
Mais c'est pas son
cocktails.
Mindset.
Voilà, non, parce qu'il veut être le meilleur. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand on commence à s'en occuper, je pense qu'on a trouvé, qu'on a un jeune qui va être le meilleur joueur de la planète. Et les gens, ils me prenaient pour un fou.
Ce qui est compréhensible à l'époque.
Bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Sauf que j'ai reçu des textos quand il a commencé à faire des choses exceptionnelles. Bon, déjà dans le championnat de France, mais surtout cette tournée à Las Vegas en début de saison.
Les deux matchs avec les Mets.
Voilà, qui ont été un moment très, très marquant.
Las Vegas.
Ouh là là.
Las Vegas, ça c'était un moment
exceptionnel.
Épique.
Ouais. Oui, et puis quand on parle de trash talk, en fait, ça fait. Excusez-moi de l'expression, péter les derniers verrous. Là, Bouna, il y a Malika Andrews qui veut l'interviewer, qui là s'intéresse à nous parce que Victor, tout simplement. Ouais.
Non, surtout, on en a pris plein la tête en disant, mais les Jérémy Bouna, ils savent pas ce qu'ils font. Tous les agents ont contacté, bien sûr, les Wembanyama pour dire, mais ils savent pas ce qu'ils font, il faut le cacher, il est numéro 1 de la draft, pourquoi il va aux États-Unis, mais ils font n'importe quoi, etc. Voilà, après, on était des génies. Mais c'est vrai que
avant on était la cible.
Ouais. C'était tendu.
C'est vrai que ce passage à Vegas là, c'était assez fou parce que il y avait une sphère basket qui commençait à entendre le nom, et puis il y avait un truc un peu licorne assez extraordinaire. Et bon, le mindset m'a beaucoup marqué très très tôt, parce que tu sens que même s'il n'était pas basketteur, ce serait déjà quand même un être humain assez exceptionnel par rapport à tout ce qu'il est capable de faire. Et vu que nous on est dans le trash talking, je me demandais parfois, il y a le stéréotype du français participer, c'est bien, joueur de collectif, etc. Je sais plus quelle était la phrase exacte qu'il a sorti dans cette conférence de presse, mais où il dit que si je n'étais pas né, il serait premier de la draft.
Scoot Anderson serait premier de la draft. Et nous, on était là en disant, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait.
Voilà, donc on est d'accord.
Maintenant, faut assumer.
Ouais, c'est ça. Ce moment a dû être fou, parce que c'est là que tu vois en fait le côté, oui, très très bien, je suis polyglotte, je vais faire des Rubik's Cube et parler d'astrophysique, mais attention, killer mindset.
Exactement.
Écoute, ça a mis le feu et c'était. Bah, c'est ce qu'il fallait en Amérique, surtout à Las Vegas, cette ville.
Bah, t'es sur leur terrain en plus à Las Vegas. Tous les ingrédients étaient réunis pour. Mais c'est vrai qu'il y a, je pense qu'il y a pas beaucoup d'agents qui auraient pris le risque. Effectivement, pour eux c'était un risque, pour nous non.
Ouais.
Pour nous c'était une évidence, parce que Victor, on connaît son côté compétiteur. On s'est dit, on va le mettre aux États-Unis. il va gagner 3-4 ans de notoriété à tous les niveaux, quoi, de respect.
Ce qu'on voulait aussi, c'est surtout les numéros 1 de la draft étrangers n'ont pas de valeur. Alors quand on est Zion Williamson ou LeBron James, avant de rentrer en NBA, on signe pour 90 millions de contrats marketing, 100 millions de contrats marketing. Voilà, mais Yao Ming,
Bargnani, Andrew Bogut, zéro.
Zéro. Ouais. Voilà. Et notre idée, c'était essayons de créer une valeur en tant que joueur étranger.
Donc c'était un peu votre idée cette tournée, en tout cas les deux matchs des Metropolitans à Vegas, c'était de votre initiative.
On peut encore passer une heure à raconter. Ouais, bah,
alors après je vais.
C'était très très complexe de pouvoir
mettre ça en place.
Rater un match ou deux et partir aux États-Unis, mais comment c'est arrivé quoi, Joe? C'est un peu incroyable.
Et alors et après il me reste une question. Là, on a juste passé en revers. Quand il y a Victor qui dit par exemple qu'il souhaite, pour faire des choses que les autres joueurs ne font pas, il doit s'entraîner comme aucun autre joueur le fait. C'est notamment une déclaration qu'il a eue récemment que j'ai trouvé géniale. Retraite Shaolin, c'est quoi? C'est salut Victor, au fait, j'ai ça à te proposer, ou emmène-moi dans des trucs auxquels personne ne penserait. Comment ça vient un truc comme ça? Puisque apparemment, tu me dis, c'est toi qui a mis ça en place.
D'abord, Bastien, on va pas s'arrêter là. Nous, on a attendu 30 ans pour être là. On va partir sur une heure encore. Non, mais sérieusement.
Moi, je peux, mais je sais pas si mon traitement du temps peut le permettre, hein, franchement. Ah ouais? Ok, bah allez, on y va, c'est parti.
Ah, Omar, tu vas nous organiser ça parce que non, c'est pas possible.
Ah, moi, je pourrais faire 2 heures avec
toi. On va pas clôturer ça comme ça.
Absolument.
Non, en fait, Victor, après son problème médical l'an dernier, et puis il a envie de rebondir, il a envie de revenir encore plus fort, et il nous a demandé je veux travailler différemment, je veux travailler à fond, je veux changer de cadre aussi en même temps. Et on a toujours été un peu attirés, intrigués par les arts martiaux, parce que dans le tai chi, le yoga, le kung fu, ça, il y a plein de gestes qu'on active pas en salle de musculation. Donc du coup on est parti sur ce taxe là de travailler sur les arts martiaux. Bien sûr la Chine reste l'endroit où on voilà, donc on est parti sur ça et on a cherché les meilleurs coachs de kung fu, et l'un des masters Shifu kung fu. En fait, ils ont une école de kung fu. Il y a l'école de Shaolin où il y a 1000 élèves Shaolin qui s'entraînent 12 heures par jour, tous les jours, depuis des années. Et donc, on a décidé d'aller là-bas. En revanche, pour rentrer là-bas, ils ont leurs conditions. C'est tu dors dans des conditions normales, tu manges.
Et pas de traitement de faveur pour.
Tu laves ta tasse une fois que tu as mangé, tu te lèves à 4h40 du matin, et puis surtout la méditation. Alors, j'ai passé une journée où j'ai voulu faire exactement tout ce que Victor faisait. Et à un moment donné.
T'arrêtes au bout de 10 minutes.
Il m'a dit. Ah ouais? Attends, je vais raconter ça. Il m'a dit. Attention, c'est challenging la méditation. Ouais, moi, je médite tous les mardis, tous les jours, etc. Je dis, c'est de la méditation, gros. Il me dit, non, je te dis que c'est challenging. Hier, c'était 2 heures. C'était très, très dur.
2 heures de méditation?
2 heures de méditation.
Oh, c'est chaud.
Et là, le master, donc, il dit, non, on va juste faire 45 minutes. Et donc, on marche d'abord. Et après, on marche, on boit du thé. Et ensuite, on est assis, les jambes croisées. Et on est dans le noir. Et les jambes croisées, les hanches serrées. Au bout de. Je suis en kimono, je transpire. Et puis j'ai mal aux hanches, mais d'une force. Et là, à un moment donné, je me dis, sors, t'es pas Victor Wanyama, t'es pas un athlète NBA, quoi. D'accord? Et puis je regarde à côté, je suis dans le noir, mais Victor à côté, je dis, mais si je sors là, il va plus jamais m'écouter. Un loser.
Ça a mérité d'être clair.
Donc il a souffert en silence.
Et donc, je transpirais comme ça, j'avais tellement mal.
Pense à son futur.
Je commence à pleurer.
Ah ouais?
Ah oui, j'avais une douleur. Orange, je m'étais fait opérer de la hanche. Enfin bref.
Ah ouais, alors faire le test ultime.
Et puis à un moment donné, je suis dans le noir, donc mon cerveau part dans tous les sens. Et je vois vraiment le travail mental. Et à un moment donné, je me dis, bon, il n'y a qu'une seule option, c'est let it go, relax. Et essayer de contrôler le mal. Donc, je commence à respirer et à me dire, bon, ben voilà, ça va se passer, etc. Donc, et à un moment donné, mon cerveau dans tous les sens et je vois que j'arrive à le contrôler un peu et à me dire, je continue à transpirer. J'ai toujours mal, mais n'y pense pas, respire, etc., etc. Et puis bon, il se passe le temps, donc j'essaie de regarder la cloque là, enfin
l'horloge qui est,
on est dans le noir.
Tu peux,
ouais. Mais à un moment donné, tu vois un peu dans le noir quand t'es dans le noir.
Oui, oui, tu...
Donc, mais le temps avançait pas, et au bout de 45 minutes, je me suis dit ça va arriver, mais ça arrivait pas. Finalement, on a fait 1h15, oh, et quand à un moment donné, la cloche comme ça.
La délivrance.
Mais sur une épreuve ou sur une méditation qui a l'air simple, un vrai challenge. Et je suis sûr que ça a l'impact encore aujourd'hui, Victor.
Ah, tu m'étonnes. Quand vous en arrivez à un tel niveau, moi, comme je vous l'ai dit, je suis né en 90 et donc j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, vous aussi. Évidemment, dans des...
On s'est rencontrés en 90.
Bon, bah, tu vois.
Sur le fameux terrain de Menton.
Full circle, incroyable. quand on a un métier passion comme ça, parfois la question qui peut venir, c'est comment garder de l'essence dans le moteur.
Mais c'est simple.
J'allais vous la poser à chacun, c'est comment est-ce que vous gardez ce... On y retourne, on y va, ça donne envie, je suis chaud le matin.
C'est très très simple. Mm-hmm. Cette passion du basket, elle est illimitée. Elle est autant illimitée chez Jérémy que chez moi. On aime ça. C'est-à-dire que draft 2023, mm-hmm. c'est 2023, c'est ça ? Donc on a la draft 2023, on a le numéro 1 de la draft, on a le numéro 7 de la draft, on a 3 joueurs dans la draft. Mm-hmm. Donc ils signent des contrats, le championnat d'Europe, des U18, après Jérémy va raconter la suite.
À Niš, en Serbie. Voilà, Buna a la bonne idée de prendre son billet, je lui dis, bah, t'as pris ton billet... Il dit, bah écoute, Niš, c'est pas très loin de la Bulgarie. Et il dit, donc je prends un billet jusqu'à Sofia. De Sofia, bah, on prend un billet de Paris-Sofia, tu me rejoins. Et puis après, on loue une voiture sur place. Et on,
deux heures.
On, voilà,
une heure
on,
et demie.
C'est de, une heure et demie, deux heures. Et puis on y est, quoi. Bon, je lui dis, ok, donc je prends un billet. On arrive là-bas à Sofia. On sort de l'aéroport, récupère nos bagages, sort de l'aéroport. On va à la société de location de voiture. Donc on fait les papiers, on remplit les papiers, c'était assez rapide. Et puis là, le gars, il dit, bon, pose une dernière, deux, trois questions. Il dit, vous sortez pas avec le véhicule de Bulgarie ? Ah, dit, si, on va en Serbie. Ah, alors attendez, je vais passer un coup de fil parce que là, ça va être un autre dossier, ça va être des autres, un autre engagement, des autres assurances, une autre assurance, etc. Donc ça a pris en fait des plombes. Et puis en fait, cette route pour aller à Niš, c'était la route que prenaient tous les Turcs pour aller en Allemagne.
Okay.
Et en fait, on s'est retrouvé dans un bouchon qui a duré à peu près 7 heures à l'aller. À l'aller. Donc bref quoi. Donc on allait en direction de Niš et puis l'équipe de France jouait. Et c'était le soir et pourtant on avait de la marge hein, le temps d'arriver.
Donc, je vais le couper. Après tu reprends. Donc le match commence. On est en retard là, sur l'autoroute.
Ouais.
Donc Jérémy a son téléphone.
On n'était pas loin d'arriver. Mais le match démarre.
Donc
c'est incroyable.
Donc il a son téléphone.
Connecté en permanence.
Mais le réseau était. Il n'y avait pas de réseau.
J'ai l'impression de leur prendre une heure et demie. En fait, ils pourraient regarder de la D3 thaïlandaise là.
Attends, je vais raconter. Donc il a son téléphone. Il se connecte et donc il va dire attends, je vais mettre le match. Donc moi je conduis. Il a son truc là et puis il y a pas de réseau.
Oh putain.
Et là, il est là, en train de bouger le téléphone.
Comme un fou.
Ça, essayer de capter un peu, ouais, là,
et
à l'ancienne.
Et pas de réseau, il devient fou. Parce que rater un match, rater une minute d'un match, on devient fou. On n'aime pas rater une minute, quoi. Et il était là, putain, son réseau. Et moi, je lui dis, mais tranquille, on va arriver, on va rater un carton. Ou...
Fire and ice. Fire, ice.
Et quand on est arrivé dans la salle, donc on arrive, effectivement, on arrive au début du deuxième carton. Mm-hmm. Et puis là, tu vois tous les gens de la NBA. Déjà qui sont stupéfaits, ils hallucinent de nous voir, et encore plus de voir Buna, on va dire, pour un championnat d'Europe des U18 après avoir eu le numéro 1, le numéro 7 de la draft. Les mecs, ils comprenaient
pourquoi
pas.
Plus Buna, le côté stupéfait, c'est quoi c'est...
Bah, on sort de la draft.
Parce que Buna est basé aux États-Unis,
oui,
on va dire qu'il y a eu la draft.
À
la rigueur, c'est plus moi qui s'attend à voir.
Nous,
à la rigueur,
si à vous deux, mais, oui,
mais ils se disent aujourd'hui, mais pourquoi vous vous faites chier En fait, c'est ça un peu leur réaction. Mais pourquoi vous faites chier à venir ici dans le trou du cul du monde, venir avoir un match de jeunes.
Ce qu'il faut se dire, c'est que les agents de notre niveau, ils ne viennent jamais voir un client championnat d'or, ne serait-ce même pas voir un match. Ils envoient les assistants, etc. Mm. Mais nous, on aime ça.
Nous, ça vous fait kiffer.
Mais en même temps, il y a aussi un gage de scouting, parce que nos deux yeux, là, on en a vu tellement que quand on est d'accord... On a quand même scouté beaucoup de joueurs avec un track
record. Oui, bien sûr.
Incroyable quand même. Ouais. Donc du coup, le fait de voir ces joueurs-là, ça nous permet de voir les problèmes. C'est pour ça qu'on a un taux de réussite très élevé, parce qu'on connaît le joueur, on voit ses problèmes.
Vous avez affiné aussi vos curseurs. Quand tous les deux vous regardez et ça fait ding ding ding, c'est que vous savez, voilà. c'est strike.
En général, ça trompe pas. Ouais.
Petit souvenir, moi je suis venu voir un événement à Nantes avec Bronny James, Victor et compagnie. C'est la première fois que je vois Romain de Montjouet. Et pour moi, certes, Bilal, etc., mais pour moi, ce soir-là, c'est le meilleur joueur sur le terrain. En termes de lecture de jeu, en termes, etc. Aujourd'hui, il est à Michigan. Non, il est.
Morris State.
C'est un des rares profils justement dont vous parliez qui sont plutôt français, NCA, en espérant le voir par la suite dans la Grande Ligue. Comment vous avez repéré un gars comme ça justement, et est-ce que c'est parce que vous avez vu sa lecture de jeu?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bah déjà tu vois sa taille et tu te dis bon, et c'est vrai que dans son cursus il nous explique avec ses parents rapidement qu'il a démarré en tant que meneur et qu'il est déjà plus grand que son papa Frédéric,
oui,
qui a été comme tu le sais certainement joueur, et donc forcément il a une combinaison qui est super excitante. Et c'est vrai que ça, nous on le voit, parce qu'on a même des scouts qui nous ont dit, on en parlait tout à l'heure en rigolant en venant, et c'est marrant que tu parles de lui, ah Roman, il est parti pour probablement faire la surprise pour certains, mais pas pour nous, parce que nous on y croit,
parce que vous savez depuis,
voilà, nous on y croit, on voit le talent. Je dirais il a un talent basket qui est rare. C'est
moi ça m'a choqué à Nanterre. Ouais. De cet événement, parce que bon, il y avait Tyronn Lue dans les gradins avec Victor et tout, et il y a un truc qui sort. Je sais pas comment ça va se passer pour lui, s'il va peut-être s'inscrire draft, etc., mais moi j'ai très très hâte, et j'ai eu l'occasion, et d'ailleurs je le remercie d'avoir échangé un peu avec lui sur Insta, un peu en DM, parce que c'est ce genre de joueur, j'ai l'impression, où il n'y a pas forcément les Uber qualité athlétique que tout le monde attend en ce moment.
C'est un athlète, hein.
C'est un athlète, un sneaky athlète.
C'est un athlète, hein,
tout à fait.
Beau, attention.
Mais je veux dire par là, par rapport à certains des freaks qui arrivent aujourd'hui.
Oui, tu parles de la verticalité, mais bon, il a quand même une verticalité.
Il monte, hein. Ouais, il monte.
Et puis une densité. C'est-à-dire que physiquement, bon, de toute façon, quand tu connais le papa.
Quand tu vois le père, tu te dis.
Roman, il va être tanké. Donc finalement, ça va être une belle combinaison. Je pense que physiquement, il a des atouts, c'est sûr.
Mais il donne l'impression de. Oui, pardon, vas-y.
Moi je veux passer à autre chose.
Je t'en prie.
Mais franchement, si vous n'allez pas voir ce film, vous allez rater quelque chose.
Ah mais non mais bien sûr.
Non mais c'est vrai, il faut se dire la vérité. Est-ce que là on parle encore du match de Bronny James? Bah, c'est incroyable qu'on ait fait un match de Bronny James le 15 août avec 2-3 de nos prospects qui sont là.
Ouais, bien sûr.
Et alors le match passe sur ESPN. L'équipe a des maillots comme sport.
Avec marqué comme sport, la sélection comme sport en blanc.
On reçoit tous des messages de tous les agents aux États-Unis parce qu'ils regardent tous. Il n'y a rien le 15 août.
Alors, moi, j'étais choqué. Elle n'était pas classée le 15 août.
Combien vous avez payé pour avoir ça? Non, ils nous ont payé.
Bien sûr.
C'était incroyable, quand même.
Incroyable.
C'est vrai que c'était assez fou. Dernière question et après, évidemment, dernier rappel et on va le faire 2-3 fois. Vous foncez le 18 février pour aller voir le rêve américain. Je vous remets. Pendant ce temps-là, je vais poser la question à ces messieurs parce qu'elle n'est pas petite, cette question. Je vous remets l'affiche ici. Personne n'y croyait. Alors, ils l'ont fait foncer. Nous, on le valide grave avec Alex, Robin et Nora. On est le voir en allant en première. C'était vraiment très stylé. Dernière question. Après tout ce que vous avez fait, 2036, on est où? Ça ressemble à quoi dans 10 ans? On continue à regarder des matchs.
Il y aura les JO.
2036?
Il y a les JO 2036?
24, 28, 32, 36.
32, 36. T'es bon, toi.
Donc forcément, il y aura déjà une compétition excitante en 2036. On va pas la rater.
Ouais. Moi, je serai à Copacabana.
J'y crois pas une seconde. Tu seras en train de regarder des
avec
matchs.
Avec l'écran, avec les JO.
Non, dans 10 ans, en vrai, vous avez déjà fait cette projection-là ou pas du tout d'imaginer baguette magique, à quoi ça ressemble comme sport et vous, votre vie dans 10 ans?
Non, parce qu'on s'est pas posé la question il y a 10 ans. Je pense que voilà, on avance et ça fait déjà 30 ans et on va continuer à faire ce qu'on aime jusqu'à ce qu'on puisse le faire, tout simplement.
Magnifique. Et un dernier mot de la fin, si vous pouvez le faire face caméra, s'il y a un jeune qui vous regarde là, parce que moi j'ai vécu ça aussi avec des joueurs de basket qu'on croise quand on est tout petit. Un jeune vous voit là et veut lui aussi réaliser son rêve d'être proche de la NBA et de faire ce qu'il va faire sans être forcément athlète, qu'est-ce que vous lui diriez?
Bah, rends-toi l'évidence si t'es comme moi, comme ça tu auras plus de chances d'être un bon agent qu'un bon joueur.
Ouais.
Mais non, après c'est une question de passion en fait. Tout est une question de passion. Je pense que le plus important dans la vie, c'est d'essayer de trouver sa passion. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à la trouver, et si on a la chance de la trouver, mais pour ça, il faut chercher, il faut essayer plein de choses. Nous, on a fait... Moi, je n'ai pas commencé que par le basket. On a touché à pas mal de sports. Mm-hmm. Même si je ne remercierai jamais assez mon pote qui m'a amené au basket, parce qu'effectivement, ça a été une révélation. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, il faut aussi cette curiosité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu restes chez toi en pensant qu'un jour, on va venir taper à ta porte pour te prendre par la main...
Non, c'est sûr.
La chance, il faut la... faut la créer, parce que la chance c'est ça, faut la provoquer. Dire la chance, est-ce qu'elle existe vraiment? Oui, des fois il y a des concours de circonstances, voilà, mais il y a d'abord avant tout un travail, et je pense que quand on travaille dur,
on augmente les probas,
t'as plus de chances d'avoir, voilà,
on est bien d'accord,
cette chance.
Si tu es jeune ou que t'es vieux, mm-hmm, que tu sois noir, blanc, rouge, ce que tu veux, que tu sois riche ou pauvre, va voir le film, parce que la formule, mm-hmm, magique, elle est tellement bien synthétisé dans ce film. Non, c'est vrai, faut se dire là,
très vrai.
Donc des choses.
C'est vrai, Benoît.
D'abord, on a rêvé. On avait exactement le même rêve. Et on continue de rêver. Mais surtout, tous les jours, que ce soit difficile ou pas difficile, on a essayé de réaliser nos rêves.
Et ça, c'est très important.
Voilà.
Il faut le faire.
Et à force de patience, comme le principe des Spurs, pound the rock, force de taper le rock.
Bah voilà, final, ça finit par marcher. Je rajouterai un dernier truc par rapport à ce que vous avez mentionné, bien s'entourer aussi, moi je trouve, parce que ce qui est notamment mentionné dans ce film est beaucoup mis en avant au-delà de l'aventure basket, comme vous dites, c'est l'amitié. Moi je le sais aussi, les copains le savent qui suivent Trash Talk depuis longtemps, moi j'ai l'occasion de bosser au quotidien avec Alex, avec des gens formidables dans l'équipe de Trash Talk. Quand on s'entoure bien aussi, c'est là que ça devient plus facile de réaliser ses rêves, parce que parfois seul ça peut être un peu plus difficile, alors que quand on a créé ce que vous avez créé vous aussi, du coup en fait il y a pas de plafond, quoi.
Bastien, tu viens de dire un élément important, hein, ce film c'est pas un film sur le basket.
Non, c'est ça.
Voilà, c'est
il s'avère que ça parle de basket.
Voilà, bien ça sûr. Parle de basket. Le basket c'est au cœur de ce film et
de nos vies.
Voilà, c'est une amitié, d'accord, et surtout le fait de comprendre qu'on se complète et qu'on croit l'un en l'autre. Aveuglément, parce que c'est vrai, d'accord, je le sens de Jérémy, moi j'ai la même envers lui, et que ce fait en fait de vraiment voilà, croire l'un envers l'autre avec le même objectif, c'est tellement explosif.
Et ça vient aussi de notre éducation, parce qu'on a eu la chance d'avoir des mères qui nous ont inculqué ça, toujours positive, nos femmes qui sont aussi positives et qui sont sûrement à l'image de nos mères.
Bien s'entourer. Donc,
voilà, c'est l'environnement, et effectivement, on a eu cette chance-là aussi.
Il faut tout un village pour faire un enfant.
Et tu sais ce qu'on dit aux joueurs à chaque fois qu'on leur parle, Let's go,
let's go, let's go. Vous foncez, bien évidemment. Je vous le remets ici, le rêve américain de Anthony Marciano avec Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi. Vous foncez le 18 février au cinéma, dans toutes les salles. Il y a un lien qui est en premier commentaire. Foncez, allez-y avec Alex, Robin et Nora. On a kiffé. Jérémy, merci à fond. Je te serre la main. Bouna, un grand merci évidemment.
Un grand jour aujourd'hui. On a été invité à Trash Talk.
Ouais. Ils l'ont fait. Bah ouais.
30 ans après.
Ils peuvent ajouter ça sur le CV. Évidemment, on fait des gros bisous. On se retrouve très très vite. 1 sur la chaîne de Trash Talk, évidemment. 2 avec la trade deadline. Attention, il va se passer plein de trucs. Peut-être avec Bouna et Jérémy, on verra. Et évidemment, à partir du 18 février, dans toutes vos salles, le rêve américain. Merci à toutes et à tous. Des gros bisous. Et on se retrouve évidemment très vite sur la chaîne de Trash Talk. Ciao.